ça va?
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fluency News. Ici, c'est Théora, ta prof de français chez Fluency Academy, et je suis heureuse de t'avoir ici avec moi. Ensemble, nous verrons certaines des nouvelles les plus pertinentes de cette semaine, et si nécessaire, nous aurons des explications en portugais. Antes de a gente começar, eu queria te dar os parabéns por você estar praticando o teu francês. Isso significa que você está focado, focada e a fim de fazer o francês acontecer. Bravo! E se você quiser dar um passo maior ainda, entre para a nossa lista de espera de um curso completo de francês, onde você vai encontrar todas as ferramentas necessárias para alcançar a fluência em menos tempo e com qualidade. Alors, on commence? Se você não está vivendo essa Copa do Mundo intensamente, eu sinto te dizer, mas você está vivendo errado. Não precisa nem gostar de futebol e muito menos saber o que é impedimento para aproveitar esse clima de festa em todos os cantos do Brasil e do mundo. Foram 4 anos esperando, apesar de todos os pesares, o evento do Qatar está entregando tudo e mais um pouco. Vem ver o que já rolou até agora para você entender do que eu estou falando. La Coupe du Monde 2022 au Qatar a connu de grandes controverses. Mauvaises conditions de travail, accusations de corruption, règles et restrictions extrêmes. Cependant, l'événement risque de rester dans les mémoires pour autre chose. Des scores de matchs imprévisibles. La situation n'a pas été facile pour les amateurs de jeux de hasard. Les gens ont déclaré qu'ils perdaient de l'argent même sur leur pari le plus sûr. Imaginons un peu. L'Argentine, une équipe considérée comme susceptible de remporter la Coupe du Monde, a perdu de façon inattendue contre l'Arabie Saoudite, une équipe dont la plupart des joueurs sont encore inconnus dans le monde entier. Ensuite, il était temps pour le Japon de battre l'une des équipes les plus solides, l'Allemagne, et de nous laisser sans voix. Mais juste après, le même Japon qui a battu l'Allemagne perd contre Costa Rica, une équipe qui a perdu contre l'Espagne 7-0. Alors que cette même équipe espagnole n'a même pas battu l'Allemagne. C'est incroyable, on est d'accord? Eh bien, et ce n'est pas tout. L'équipe de foot sous-estimée du Maroc a réussi à s'imposer face à la Belgique, une autre équipe solide. 2 beaux scores dans ce match pour le Maroc. Également la victoire de l'Iran contre le pays de Galles. Sans oublier le rebondissement passionnant et inattendu du match entre la Corée du Sud et le Ghana, au cours duquel l'équipe ghanéenne a gagné. Même les États-Unis ont surpris le monde entier avec leur match nul contre l'Angleterre. Jusqu'à présent, ça va trop bien pour nous, pour vous, les Brésiliens, et vous n'avez plus à vous soucier de la phase de groupe. Mais gardez les yeux bien ouverts, car cette Coupe du Monde est pleine de surprises. Ai, eu fico realmente dividida entre torcer para a França ou para o Brasil. Eu quero realmente torcer para os dois. Eu quero que os dois ganhem, mas não dá. Não dá, eu sei. Ai, mas o meu coração segue dividido. A Copa está aqui e essa é uma ótima oportunidade de interagir com as pessoas de outras nacionalidades em francês. Ou em qualquer outro idioma que a Fluency Academy ensina, não é? Então vamos ver o que dá para aprender com essa notícia para falar sobre Copa do Mundo em francês. Nossa dica de hoje é bem legal. Bem ali no começo da notícia, eu falei que a Copa seria reconhecida como la Coupe du Monde la plus imprévisible depuis longtemps, por conta des scores de match imprévisibles, ou seja, os resultados dos jogos imprevisíveis. Mas espera aí, match? Score? Isso aí no inglês? Pois é, é isso mesmo. Ou melhor, é mais ou menos. Eu vou te explicar. A gente chama esses estrangeirismos na língua de franglais, que são palavras em inglês que foram adotadas no francês e são usadas no dia a dia. E bom, no futebol é super comum alguns termos como esses serem adotados para facilitar mesmo a compreensão. Se você quiser saber mais sobre a mistura do francês e do inglês, o franglais, não deixe de ouvir o episódio do Like a Native, que aprofunda mais nesse assunto, eu tenho certeza que você vai adorar. A Já imaginou sair às ruas para protestar com um cartaz branco que não diz nada? É o que está acontecendo na China. Folhas em branco viraram armas perigosas de protesto. Veja só. Dans les pays où la liberté d'expression est limitée, il faut faire preuve de créativité pour développer des méthodes subtiles et efficaces de protestation. Ce sont les décisions relatives à la politique chinoise zéro Covid qui ont déclenché les protestations. Au cours des derniers mois, le gouvernement a ordonné des fermetures sévères dans de nombreuses villes, y compris dans d'immenses centres industriels, commerciaux et financiers comme Shanghai ou Shenzhen. La Chine applique les politiques de confinement les plus strictes au monde, notamment en isolant les personnes dans les installations du gouvernement et en fermant les entreprises, les magasins, les aéroports et les écoles. Et cette restriction restera en vigueur jusqu'à ce qu'aucun cas de Covid ne soit enregistré dans le pays. La vague de protestation dans plusieurs villes du pays a éclaté après qu'un incendie dans la région du Xinjiang, à l'extrême ouest du pays, a fait 10 morts selon les chiffres officiels. Un bilan que beaucoup soupçonnent être lié aux restrictions de confinement imposées aux gens. Les manifestants ont utilisé les draps blancs pour les disparus. Le blanc est une couleur funéraire courante en Chine et pour exprimer un état de colère compris implicitement par les millions de personnes qui ont souffert les restrictions dues au contexte de la pandémie. À Shanghai, de nombreuses personnes étaient présentes sur le campus de l'université Tsinghua, autrefois fréquenté par l'actuel dirigeant Xi Jinping, tenant de feuilles de papier blanc et d'autres symboles de protestation. À la presse, on a déclaré « Il n'y a rien d'écrit, mais ils savent exactement ce qui sera écrit. Nous les défions. » Ces messages insaisissables, créatifs et souvent ironiques ont été parmi les nombreux messages qui ont donné le ton aux manifestations organisées dans toute la Chine le week-end dernier. La colère suscitée par les mesures de confinement prises près de 3 ans après le début de la pandémie s'est rapidement transformée en l'une des manifestations les plus audacieuses contre les autorités chinoises depuis des années. Parece que a situação na China está bem crítica mesmo. Vamos torcer para tudo se acalmar e vamos fazer a nossa parte para que a pandemia não seja de novo problema. Enquanto isso, olha aqui a dica nessa notícia. Presta atenção. Il faut faire preuve de créativité pour développer les méthodes subtiles et efficaces de protestation. Nessa frase tem uma estrutura importante do francês, il faut, que é seguida de verbo no infinitivo, ou seja, verbo que não está conjugado, e que serve para marcar uma necessidade, uma obrigação. Então, a frase dessa notícia a gente pode traduzir do seguinte modo. É preciso ter criatividade para desenvolver métodos sutis e eficazes de protesto. Vamos acompanhar outras frases para você não esquecer. Il faut prendre des médicaments. É preciso tomar remédios. Il faut aller voir un médecin. É preciso ir ver médico. Il faut manger avant dormir. É preciso comer antes de dormir. Imagina você descobrir que o teu vizinho ou teu colega da faculdade ou mesmo o teu parceiro de dança de aulas de forró e sertanejo universitário é, na verdade, espião russo disfarçado. Pois é, muita gente se chocou ao descobrir que tinha espião de verdade vivendo uma vida boa aqui no Brasil. Olha só. Accusé d'être espião russo, Sergei Vladimirovich Cherkassov a été arrêté aux Pays-Bas et renvoyé au Brésil après s'être présenté comme le Brésilien Victor Müller Ferreira, fils d'une mère brésilienne et d'un père portugais, élevé par une tante en Argentine. Il a étudié sciences politiques en Irlande de 2015 à 2018 et a passé un master aux États-Unis à l'université Johns Hopkins sous l'identité du Brésilien Victor Ferreira. Il a été arrêté en essayant d'entrer aux Pays-Bas où il était censé travailler à la Cour pénale internationale. La police a même trouvé une lettre qu'il avait adressée à lui-même avec la biographie du personnage Victor Ferreira. Certaines personnes qu'il a rencontrées au Brésil se sont exprimées. Le concierge de l'une de ces 5 adresses brésiliennes a dit qu'il était très gentil et qu'ils étaient amis. Il a dit que l'espion prenait des cours de danse foro et sertanejo et qu'il semblait tout à fait normal. L'un de ses professeurs à l'université a déclaré qu'il était un bon étudiant, qu'il semblait normal et qu'il était même sorti avec une fille pendant 9 mois lorsqu'il était à l'université. Les deux ont déclaré qu'ils étaient choqués par le fait que Victor était en fait un espion russe. Lorsque Sergueï a été arrêté, il a nié d'être russe. Il s'en est tenu à l'affirmation qu'il était Victor Ferreira et que tout cela était un malentendu. 2 semaines plus tard, cependant, un diplomate russe lui a rendu visite et il a avoué être Sergueï Vladimirovitch Cherkassov. Mais a continué à dire qu'il n'était pas un espion. Les preuves, cependant, sont contre lui. Une demande d'assignation à résidence doit être jugée, dans laquelle la maison serait l'ambassade russe. La presse brésilienne a demandé aux Russes s'il était acceptable d'accueillir un criminel condamné, mais ils n'ont pas répondu. Nous attendons avec impatience la révélation de l'histoire. Tem coisa que só acontece no Brasil. Não adianta. Imagina, um dia você tá dançando, tranquila, forrozinho, com cara, e no outro ele tá preso, acusado de ser um espião russo. Isso, minha gente, não é para amadores. E vamos aproveitar essa viagem ao mundo e uma notícia e pegar essa dica de preposição. Presta atenção nas frases. Il a étudié sciences politiques en Irlande de 2015 à 2018. Il a été arrêté en essayant d'entrer aux Pays-Bas. Se as duas palavras, Irlanda e Pays-Bas, são países, por que que em uma a gente diz en Irlande e na outra o Pays-Bas? Cada uma das preposições tem um sentido de ser. E se você tem dúvida em qual usar, eu vou te ajudar. Na primeira frase, o en está sendo usado porque o nome do país começa com uma vogal. E nesse caso, não é possível a gente usar a preposição o, a, u, já que a gente sabe que uma das regras principais do francês é que é proibido juntar duas vogais de palavras separadas. Você lembra dessa regra? Mas se você acha que o uso do en serve só para isso, eu vou te mostrar que tem um outro uso dessa mesma preposição. É usada também para os países que são femininos, como, por exemplo, Anne va en Italie. Italie é um país feminino. Deu para entender? Uma dica. A maioria dos países do continente europeu são femininos. Agora, olha esses exemplos. Je vais étudier en France. Eu vou estudar na França. L'année dernière, j'ai passé mes vacances en Argentine. Ano passado, passei minhas férias na Argentina. Agora, sobre o A, U, X é o plural da preposição O, A, U, que é usada para designar países masculinos que começam por consoantes. E quando o país estiver no plural, como por exemplo, les États-Unis, les Pays-Bas, a gente usa O. Tudo bem até aqui? Então vamos ver 2 exemplos para a gente poder fixar bem e não esquecer mais. Le mois prochain, je déménage aux États-Unis. Mês que vem, eu me mudo para os Estados Unidos. Mon rêve est d'aller aux Pays-Bas. Meu sonho é ir para os Países Baixos. E aí, gostou da dica? Eu espero ter te ajudado. Esse é tudo por cette semaine. Eu espero que você tenha gostado das notícias dessa semana e das nossas dicas de hoje. E agora, não deixe de conferir os nossos outros podcasts, além dos conteúdos, no nosso Instagram, @fluencytvfrancês. Un gros bisou et à la prochaine fois!